Il est impossible de continuer ce récit sans dire un mot du prince de Cadignan, plus connu sous le nom de duc de Maufrigneuse. Autrement, le seul des inventions miraculeuses de la princesse disparaîtrait, et les étrangers ne comprendraient rien à l'épouvantable comédie parisienne qu'elle allait jouer pour un homme. Monsieur le duc de Maufrigneuse, en vrai fils du prince de Cadignan, est un homme long et sec, aux formes les plus élégantes, plein de bonne grâce, disant des mots charmants, devenu colonel par la grâce de Dieu et devenu bon militaire par hasard. D'ailleurs, brave comme un polonais à tout propos, sans discernement, et cachant le vide de sa tête sous le jargon de la grande compagnie. Dès l'âge de 36 ans, il était, par force d'une aussi parfaite indifférence pour le beau sexe que le roi Charles X, son maître. Puni comme son maître pour avoir, comme lui, trop plu dans sa jeunesse. Pendant 18 ans, l'idole du faubourg Saint-Germain, il avait, comme tous les fils de famille, mené une vie dissipée, uniquement remplie de plaisirs. Son père, ruiné par la Révolution, avait trouvé sa charge au retour des Bourbons, du gouvernement d'un château royal, des traitements, des pensions. Mais cette fortune factice, le vieux prince la mangea très bien, demeurant le grand seigneur qu'il était avant la Révolution, en sorte que, quand vint la loi d'indemnité, les sommes qu'il reçut furent absorbées par le luxe qu'il déploya dans son immense hôtel, le seul bien qu'il retrouva et dont la plus grande partie était occupée par sa belle-fille. Le prince de Cadignan mourut quelque temps avant la Révolution de Juillet, âgé de 87 ans. Il avait ruiné sa femme et fut longtemps en délicatesse avec le duc de Navarreins qui avait épousé sa fille en première noces et auquel il rendit difficilement ses comptes. Le duc de Maufrigneuse avait eu des liaisons avec la duchesse d'Uxelles. Vers 1814, au moment où M. de Maufrigneuse atteignait à 36 ans, la duchesse, le voyant pauvre mais très bien en cour, lui donna sa fille qui possédait environ 50 ou 60 000 livres de rente, sans ce qu'elle devait attendre d'elle-même. Mademoiselle d'Uxelles devenait ainsi duchesse, et sa mère savait qu'elle avait vraisemblablement la plus grande liberté. Après avoir eu le bonheur inespéré de se donner un héritier, le duc laissa sa femme entièrement libre de ses actions et alla s'amuser de garnison en garnison, passant les hivers à Paris, faisant des dettes que son père payait toujours, professant la plus ancienne entière indulgence conjugale, avertissant la duchesse 8 jours à l'avance de son retour à Paris, adorée de son régiment, aimée du dauphin, courtisan adroit, un peu joueur d'ailleurs, sans aucune affectation. Jamais la duchesse ne put lui persuader de prendre une fille d'opéra par décorum et par égard pour elle, disait-elle plaisamment. Le duc, qui était la survivante de la charge de son père, supplère aux deux rois, à Louis XVIII et à Charles X, ce qui prouve qu'il tirait assez bon parti de sa nullité, mais cette conduite, cette vie, tout était recouvert du plus beau vernis. Langage, noblesse de manière, tenue, offraient en lui la perfection. Enfin, les libéraux l'aimaient. Il lui fut impossible de continuer les Cadignan, qui, selon le vieux prince, étaient connus pour ruiner leurs femmes, car la duchesse mangea elle-même sa fortune. Et ces particularités devinrent si publiques dans le monde de la cour et dans le faubourg Saint-Germain que pendant les 5 dernières années de la Restauration, on se serait moqué de quelqu'un qui en aurait parlé, comme s'il eût voulu raconter la mort de Turenne ou celle de Henri IV. Aussi pas une femme ne parlait-elle de ce charmant duc sans en faire l'éloge. Il avait été parfait pour sa femme, mais il était difficile à un homme de se montrer aussi bien que Maufrigneuse pour la duchesse. Il lui avait laissé la libre disposition de sa fortune. Il l'avait défendue et soutenue en toute occasion. Soit orgueil, soit bonté, soit chevalerie, M. de Maufrigneuse avait sauvé la duchesse en bien des circonstances où toute autre femme eût péri, malgré son entourage, malgré le crédit de la vieille duchesse d'Uxelles, du duc de Navarreins, de son beau-père et de la tante de son mari. Aujourd'hui, le prince de Cadignan passe pour un des beaux caractères de l'aristocratie. Peut-être la fidélité dans le besoin est-elle une des plus belles victoires que puissent remporter les courtisans sur eux-mêmes. La duchesse d'Uxelles avait 45 ans quand elle maria sa fille au duc de Maufrigneuse. Elle assistait donc depuis longtemps, sans jalousie et même avec intérêt, au succès de son ancienne amie. Au moment du mariage de sa fille et du duc, elle tint une conduite d'une grande noblesse et qui sauva l'immoralité de cette combinaison. Néanmoins, la méchanceté des gens de cour trouva matière à railler et prétendit que cette belle conduite ne coûtait pas grand-chose à la duchesse, quoique depuis 5 ans environ, elle se fût adonnée à la dévotion et au repentir des femmes qui ont beaucoup à se faire pardonner. Pendant plusieurs jours, la princesse se montra de plus en plus remarquable pour ses connaissances en littérature. Elle abordait avec une excessive hardiesse les questions les plus ardues, grâce à des lectures diurnes et nocturnes, poursuivie avec une intrépidité digne des plus grands éloges. D'Arthez, stupéfait et incapable de soupçonner que Diane d'Uxelles répétait le soir ce qu'elle avait lu le matin, comme font beaucoup d'écrivains, la tenait pour une femme supérieure. Ses conversations éloignaient Diane du but. Elle essaya de se retrouver sur le terrain des confidences, d'où son amant s'était prudemment retiré. Mais il ne lui fut pas très facile d'y faire revenir un homme de cette trempe une fois effarouché. Cependant, après un mois de campagne littéraire et de beaux discours philosophiques, d'Arthez s'enhardit et vint tous les jours à 3 heures. Il se retirait à 6 heures et reparaissait le soir à 9 heures pour rester jusqu'à minuit ou 1 heure du matin avec la régularité d'un amant plein d'impatience. La princesse se trouvait habillée avec plus ou moins de recherche à l'heure où d'Arthez se présentait. Cette mutuelle fidélité, les soins qu'ils prenaient d'eux-mêmes, tout en eux exprimait des sentiments qu'il n'osait s'avouer, car la princesse devinait à merveille que ce grand enfant avait peur d'un débat autant qu'elle en avait envie. Néanmoins, d'Arthez mettait dans sa constante déclaration muette un respect qui pesait infiniment à la princesse. Tous deux se sentaient chaque jour d'autant plus unis que rien de convenu ni de tranché ne les arrêtait dans la marche de leurs idées, comme lorsque, entre amants, il y a d'un côté des demandes formelles et de l'autre une défense, ou sincère ou coquette. Semblable à tous les hommes plus jeunes que leur âge ne le comporte, d'Arthez était en proie à ces émouvantes irrésolutions causées par la puissance des désirs et par la terreur de déplaire. Situation à laquelle une jeune femme ne comprend rien quand elle le partage, mais que la princesse avait trop souvent fait naître pour ne pas en savourer les plaisirs. Aussi, Diane jouissait-elle de ces délicieux enfantillages avec d'autant plus de charme qu'elle savait bien comment les faire cesser. Elle ressemblait à un grand artiste se complaisant dans les lignes indécises d'une ébauche sûr d'achever dans une heure d'inspiration le chef-d'œuvre encore flottant dans les limbes de l'enfantement. Combien de fois, en voyant d'Arthez prêt à s'avancer, ne se put-elle pas l'arrêter par un air imposant? Elle refoulait les secrets orages de ce jeune cœur. Elle les soulevait, les apaisait par un regard, en tendant sa main à baiser ou par des mots insignifiants, dits d'une voix émue et attendrie. Ce manège, froidement convenu mais divinement joué, gravait son image toujours plus avant dans l'âme de ce spirituel écrivain qu'elle se plaisait à rendre enfant, confiant, simple et presque niais auprès d'elle. Mais elle avait aussi des retours sur elle-même. Il lui était alors impossible de ne pas admirer tant de grandeur mêlée à tant d'innocence. Ce jeu de grande coquette l'attachant elle-même insensiblement à son esclave. Enfin, elle s'impatienta contre cet épictète amoureux et quand elle crut l'avoir disposé à la plus entière crédulité, elle se mit en devoir de lui appliquer sur les yeux le bandeau le plus épais. Un soir, Daniel trouva Diane pensive, un coude sur une petite table, sa belle tête blonde baignée de lumière par la lampe. Elle badinait avec une lettre qu'elle faisait danser sur le tapis de la table. Quand d'Arthez eut bien vu ce papier, elle finit par le plier et le passer dans sa ceinture. « Qu'avez-vous ? » dit d'Arthez. « Vous paraissez inquiète. » « J'ai reçu une lettre de Monsieur de Cadignan, » répondit-elle. « Quelque grave que soit cet tort envers moi, je pensais, après avoir lu sa lettre, qu'il est exilé, sans famille, sans son fils qu'il aime. » Ces paroles, prononcées d'une voix pleine d'âme, révélaient une sensibilité angélique. D'Arthez fut ému au dernier point. La curiosité de l'amant devint pour ainsi dire une curiosité presque psychologique et littéraire. Il voulut savoir jusqu'à quel point cette femme était grande, sur quelles injures portait son pardon. Comment ces femmes du monde, taxées de frivolité, de dureté de cœur, d'égoïsme, pouvaient être des anges. En se souvenant d'avoir été déjà repoussé quand il avait voulu connaître ce cœur céleste, il eut, lui, comme un tremblement dans la voix, lorsqu'en prenant la main transparente fluette à doigts tournés en fuseau de la belle Diane, il lui dit « Sommes-nous maintenant assez amis pour que vous me disiez ce que vous avez souffert ? Vos anciens chagrins doivent être pour quelque chose dans cette rêverie. » « Oui, » dit-elle en sifflant cette syllabe comme la plus douce note qu'ait jamais soupiré la flûte de Toulouse. Elle retomba dans sa rêverie et ses yeux se voilèrent. Daniel demeura dans une attente pleine d'anxiété, pénétré de la solennité de ce moment. Son imagination de poète lui faisait voir comme des nuées qui se dissipaient lentement en lui, découvrant le sanctuaire où il allait voir au pied de Dieu l'agneau blessé. « Eh bien ? » dit-il d'une voix douce et calme. Diane regarda le tendre solliciteur, puis elle baissa les yeux lentement en déroulant ses paupières par un mouvement qui décelait la plus noble pudeur. Un monstre seul aurait été capable d'imaginer quelque hypocrisie dans l'ondulation gracieuse par laquelle la malicieuse princesse redressa sa jolie petite tête pour plonger encore un regard dans les yeux avides de ce grand homme. « Mais le puis-je, le dois-je » fit-elle en laissant échapper un geste d'hésitation et regardant d'Arthez avec une sublime expression de tendresse rêveuse. « Les hommes ont si peu de foi pour ces sortes de choses. » Il se croit si peu obligé à la discrétion. Alors, si vous vous défiez de moi, pourquoi suis-je ici ? S'écria d'Arthez. Eh, mon ami, répondit-elle, en donnant à son exclamation la grâce d'un aveu involontaire, lorsqu'elle s'attache pour la vie, une femme calcule-t-elle ? Il ne s'agit pas de mon refus. Que je puis-je vous refuser, mais de l'idée que vous aurez de moi si je parle. Oh, je vous confierai bien l'étrange situation dans laquelle je suis à mon âge, mais que penseriez-vous d'une femme qui découvrirait les plaies secrètes du mariage, qui trahirait les secrets d'un autre ? Turenne gardait sa parole au voleur. Ne dois-je pas à mes bourreaux la probité de Turenne ? Avez-vous donné votre parole à quelqu'un ? Oh non, monsieur de Cadignan n'a pas cru nécessaire de me le demander, ce secret. Vous voulez donc plus que mon âme ? Tyran, mais vous voulez donc que j'ensevelisse en vous ma probité ? Dit-elle en jetant sur d'Arthez un regard par lequel elle donna plus de prix à cette fausse confidence qu'à toute sa personne. Vous faites de moi un homme pas trop ordinaire. Si de moi vous croyez quoi que ce soit de mal, dit-il, avec une amertume mal déguisée. Pardon, mon ami, répondit-elle en lui prenant la main, la regardant, la pressant dans les siennes et la caressant, en y traînant les doigts par un mouvement d'une excessive douceur. Mais je sais tout ce que vous valez. Vous m'avez raconté toute votre vie, elle est noble, elle est belle, elle est sublime, elle est digne de votre nom. Peut-être en retour vous dois-je la mienne. Mais j'ai peur en ce moment de déchoir à vos yeux en vous racontant des secrets qui ne sont pas seulement les miens. Puis peut-être croirez-vous pas, vous, homme de solitude et de poésie, aux horreurs du monde. Ah, vous ne savez pas qu'en inventant vos drames, ils sont surpassés par ce qui se joue dans les familles en apparence les plus unies. Vous ignorez l'étendue de certaines infortunes dorées. Mais je sais tout, s'écria-t-il. Non, reprit-elle, vous ne savez rien. Une fille doit-elle jamais livrer sa mère ? En entendant ce mot, d'Arthez se trouva comme un homme égaré par une nuit noire dans les Alpes, et qui, aux premières lueurs du matin, aperçoit qu'il enjambe un précipice sans fond. Il regarda la princesse d'un air hébété, il avait froid dans le dos. Diane crut que cet homme de génie était un esprit faible, mais elle lui vit un éclat dans les yeux qui la rassura. « Enfin, vous êtes devenu pour moi presque un juge, » dit-elle d'un air désespéré. « Je puis parler en vertu du droit qui a tout être calomnié de se montrer dans son innocence. J'ai été, je suis encore, si tant est qu'on se souvienne d'un pauvre recluse forcé par le monde de renoncer au monde, accusé de tant de légèreté, de tant de mauvaises choses, qu'il peut m'être permis de me poser dans le cœur où je trouve un asile de manière à n'en être pas chassé. J'ai toujours vu dans la justification une forte atteinte faite à l'innocence. Aussi ai-je toujours dédaigné de parler. À qui d'ailleurs pouvais-je adresser la parole ? On ne doit confier ces cruelles choses qu'à Dieu ou à quelqu'un qui nous semble bien près de lui, un prêtre ou un autre nous-mêmes. « Eh bien, si mes secrets ne sont pas là, » dit-elle en appuyant sa main sur le cœur de d'Arthez, « comme ils étaient ici. » Elle fit fléchir sous ses doigts le haut de son busc. « Vous ne serez pas le grand d'Arthez. J'aurais été trompé. » Une larme mouilla les yeux de d'Arthez, et Diane dévora cette larme par un regard de côté qui ne fit vaciller ni sa prunelle ni sa paupière. Ce fut leste et net comme un geste de chat prenant une souris. D'Arthez, pour la première fois, après 60 jours pleins de protocole, osa prendre cette main tiède et parfumée. Il la porta sous ses lèvres. Il y mit un long baiser, traîné depuis le peignet jusqu'aux ongles, avec une si délicate volupté que la princesse inclina sa tête en augurant très bien de la littérature. Elle pensa que les hommes de génie devaient aimer avec beaucoup plus de perfection que n'aiment les fats, les gens du monde, les diplomates et même les militaires, qui cependant n'ont que cela à faire. Elle était connaisseuse et savait que le caractère amoureux se signe en quelque sorte dans les riens. Une femme instruite peut lire son avenir dans un simple geste, comme Cuvier savait dire en voyant le fragment d'une patte « Oh, ceci appartient à un animal de telle dimension, avec ou sans cornes, carnivore, herbivore, amphibie, etc., âgé de tant de 1000 ans. » Sûr de rencontrer chez d'Arthez autant d'imagination dans l'amour qu'il en mettait dans son style, elle jugea nécessaire de le faire arriver au plus haut degré de la passion et de la croyance. Elle retira vivement sa main par un magnifique mouvement plein d'émotion. Elle lui dit « Finissez, vous allez me faire mourir !» Elle lui parlait moins énergiquement. Elle resta pendant un moment les yeux dans les yeux de d'Arthez, en exprimant tout à la fois du bonheur, de la pruderie, de la crainte, de la confiance, de la langueur, un vague désir et une pudeur de vierge. Elle n'eut alors que 20 ans. Mais comptez qu'elle s'était préparée à cette heure de comique mensonge avec un art inouï dans sa toilette. Elle était dans son fauteuil comme une fleur qui va s'épanouir au premier baiser du soleil. Trompeuse ou vraie, elle enivrait Daniel. S'il est permis de risquer une opinion individuelle, avouons qu'il serait délicieux d'être ainsi trompé longtemps. Certes, souvent Talma, sur la scène, a été fort au-dessus de la nature. Mais la princesse de Cadignan n'est-elle pas la plus grande comédienne de ce temps? Il ne manque à cette femme qu'un parterre attentif. Malheureusement, dans les époques tourmentées par les orages politiques, les femmes disparaissent comme les lys des eaux, qui, pour fleurir et s'étaler à nos regards ravis, ont besoin d'un ciel pur et des plus tièdes zéphyrs. L'heure était venue. Diane allait entortiller ce grand homme dans les lianes inextricables d'un roman préparé de longue main, et qu'il allait écouter comme un néophyte des beaux jours de la voix chrétienne écoutait l'épître d'un apôtre. « Mon ami, ma mère, qui vit encore à Uxelles, m'a marié à 17 ans, en 1814. Vous voyez que je suis bien vieille, à monsieur de Maufrigneuse, non pas par amour pour moi, mais par amour pour lui. Elle s'acquittait envers le seul homme qu'elle eût aimé, de tout le bonheur qu'elle avait reçu de lui. Oh, ne vous étonnez pas de cette horrible combinaison, elle a lieu souvent. Beaucoup de femmes sont plus amantes que mères, comme la plupart sont meilleures mères que bonnes femmes. Ces deux sentiments, l'amour et la maternité, développés comme ils le sont par nos mœurs, se combattent souvent dans le cœur des femmes. Il y en a nécessairement un qui succombe quand ils ne sont pas égaux en force, ce qui fait de quelques femmes exceptionnelles la gloire de notre sexe. Un homme de votre génie doit comprendre ces choses qui font l'étonnement des sots, mais qui n'en sont pas moins vraies, et, j'irai plus loin, qui sont justifiables par la différence de caractère, des tempéraments, des attachements, des situations. Moi, par exemple, en ce moment, après 20 ans de malheur, de déception, de calomnie insupportée, d'ennuis pesants, de plaisirs creux, Ne serais-je pas disposé à me prosterner aux pieds d'un homme qui m'aimerait sincèrement pour toujours? Eh bien, ne serais-je pas condamné par le monde? Et pendant 20 ans de souffrance, n'excuserait-elle pas une dizaine d'années qui me restent à vivre encore belles, données à un saint et pur amour? Oh, cela ne sera pas. Je suis pas assez sotte que de diminuer mes mérites aux yeux de Dieu. J'ai porté le poids du jour et de la chaleur jusqu'au jour, jusqu'au soir. J'achèverai ma journée et j'aurai gagné ma récompense. Quel ange, pensa d'Arthez. Enfin, je n'en ai jamais voulu à la duchesse d'Uxelles d'avoir plus aimé monsieur de Maufrigneuse que la pauvre Diane que voici. Ma mère m'avait très peu vue et m'avait oublié, mais elle s'est mal conduite envers moi, de femme à femme, en sorte que ce qui est mal de femme à femme devient horrible de mère à fille. Les mères qui mènent une vie comme celle de la duchesse d'Uxelles tiennent leur fille loin d'elle. Je suis donc entré dans le monde 15 jours avant mon mariage. Jugez de mon innocence. Je ne savais rien, j'étais incapable de deviner le secret de cette alliance. J'avais une belle fortune, 60 000 livres de rente en forêt, que la Révolution avait oublié de vendre en Nivernais, ou n'avait pas pu vendre, et qui dépendait du beau château d'Anzy. Monsieur de Maufrigneuse était criblé de dettes. Si, plus tard, j'ai appris ce que c'était que d'avouer des droits et des dettes, j'ignorais alors trop complètement la vie pour le soupçonner. Les économies faites sur ma fortune servirent à pacifier les affaires de mon mari. Monsieur de Maufrigneuse avait 38 ans quand je l'épousais. Mais ces années étaient comme celles des campagnes les militaires. Elles devaient compter double. Oh, il avait bien plus de 76 ans. À 40 ans, ma mère avait encore des prétentions et je me suis trouvé entre deux jalousies. Quelle vie ai-je menée pendant 10 ans? Oh, si l'on savait ce que s'ouvrait cette pauvre petite femme tant soupçonnée. Être gardée par une mère jalouse de sa fille. Dieu, vous autres qui faites des drames, vous n'interviendrez jamais un aussi noir, aussi cruel que celui-ci. Ordinairement, d'après le peu que je sais de la littérature, un drame est une suite d'actions, de discours, de mouvements qui se précipitent vers une catastrophe. Mais ce dont je vous parle est la plus horrible catastrophe en action. C'est l'avalanche tombée le matin sur vous, qui retombe le soir et qui retombera le lendemain. J'ai froid au moment où je vous parle et où je vous déclare la caverne sans issue, froide et sombre dans laquelle j'ai vécu. S'il faut tout vous dire, la naissance de mon pauvre enfant, qui d'ailleurs est tout moi-même, vous avez dû être frappé de sa ressemblance avec moi. C'est mes cheveux, mes yeux, la coupe de mon visage, ma bouche, mon sourire, mon menton, mes dents. Eh bien, sa naissance est un hasard, ou le fait d'une convention de ma mère et de mon mari. Je suis restée longtemps jeune fille après mon mariage, quand, délaissée le lendemain, mère sans être femme. La duchesse se plaisait à prolonger mon ignorance. Et pour atteindre ce but, une mère apprête de sa fille d'horribles avantages. Moi, pauvre petite, élevée dans un couvent comme une rose mystique, ne sachant rien du mariage, développé fort tard, je me trouvais très heureuse. Je jouissais de la bonne intelligence et de l'harmonie de notre famille. Enfin, j'étais entièrement diverti de penser à mon mari, qui ne me plaisait guère et qui ne faisait rien pour se montrer aimable, par les premières joies de la maternité. Elles furent d'autant plus vives que je n'en soupçonnais pas d'autres. On m'avait tant corné aux oreilles le respect qu'une mère se devait à elle-même. Et d'ailleurs, une jeune fille aime toujours à jouer à la maman. À l'âge où j'étais, un enfant remplace alors la poupée. Et j'étais si fier d'avoir cette belle fleur, car Georges était beau, une merveille. Comment songer au monde quand on a le bonheur de nourrir et de soigner un petit ange? J'adore les enfants quand ils sont tout petits, blancs et roses. Moi, je le voyais comme mon fils, je vivais avec mon fils. Je ne laissais pas ce gouvernante le déshabiller, l'habiller, le changer. Ces soins, si ennuyeux pour les mères qui ont des régiments d'enfants, étaient tout plaisir pour moi. Mais après 3 ou 4 ans, comme je ne suis pas tout à fait sotte, malgré le soin que l'on mettait à me bander les yeux, la lumière a fini par les atteindre. Me voyez-vous au réveil, 4 ans après, en 1819? Les deux frères ennemis sont une tragédie à l'eau rose auprès d'une mère et d'une fille placée comme nous le fûmes alors, la duchesse et moi. Je les ai bravés alors, elle et mon mari, par des coquetteries publiques qui ont fait parler le monde. Dieu sait comme. Vous comprenez mon ennui, que les hommes avec lesquels j'étais soupçonné de légèreté avaient pour moi la valeur du poignard dont on se sert pour frapper son ennemi. Préoccupé de ma vengeance, je ne sentais pas les blessures que je me portais à moi-même. Innocente comme un enfant, je passais pour une femme perverse, pour la plus mauvaise femme du monde, et je n'en savais rien. Le monde est bien sot, bien aveugle, bien ignorant. Il ne pénètre que les secrets qui l'amusent, qui servent sa méchanceté. Les choses les plus grandes, les plus nobles, il se met la main sur les yeux pour ne pas les voir. Mais il me semble que dans ce temps, j'ai eu des regards, des attitudes d'innocence révoltée, des mouvements de fierté, qui eussent été les bonnes fortunes pour de grands peintres. J'ai dû éclairer des balles par les tempêtes de ma colère, par les torrents de mon dédain. Poésie perdue. On ne fait ces sublimes poèmes que dans l'indignation qui nous saisit à 20 ans. Plus tard, on ne s'indigne plus. On est là. On ne s'étonne plus du vice. On est lâche. On a peur. Moi, j'allais bien. J'ai joué le plus sot personnage du monde. J'ai eu les charges du crime sans en avoir les bénéfices. Mais j'avais tant de plaisir à me compromettre. Oh, j'ai fait des malices d'enfant. Je suis allé en Italie avec un jeune étourdi que j'ai planté là quand il m'a parlé d'amour. Mais quand j'ai su qu'il s'était compromis pour moi, il avait fait un faux pour avoir de l'argent, j'ai couru le sauver. Ma mère et mon mari, qui savaient le secret de ces choses, me tenaient en bride comme une femme prodigue. Oh, cette fois, je suis allé au roi. Louis XVIII, cet homme sans cœur, a été touché. Il m'a donné 100 000 francs sur sa cassette. Le marquis d'Escrignon, ce jeune homme que vous avez peut-être rencontré dans le monde et qui a fini par faire un très riche mariage, a été sauvé de l'abîme où il s'était plongé pour moi. Cette aventure, causée par ma légèreté, m'a fait réfléchir. Je me suis aperçu que j'étais la première victime de ma vengeance. Ma mère, mon mari, mon beau-père avaient le monde pour eux. Ils paraissaient protéger mes folies. Ma mère, qui me savait bien trop fière, trop grande, trop duxelle, pour me conduire vulgairement, fut alors épouvantée du mal qu'elle avait fait. Elle avait 52 ans. Elle a quitté Paris, elle est allée vivre à Uxelles. Elle se repent maintenant de ses torts. Elle les expie par la dévotion la plus outrée et par une affection sans borne pour moi. Mais en 1823, elle m'a laissé seul et face à face avec M. de Maufrigneuse. Oh, mon ami, vous autres hommes, vous ne pouvez savoir ce qu'est un vieil homme à bonne fortune. Quel intérieur que celui d'un homme accoutumé aux adorations des femmes du monde, qui ne trouve ni encens, ni encensoir, chez lui, mort à tout, et jaloux par cela même. J'ai voulu, quand M. de Maufrigneuse a été tout à moi, j'ai voulu être une bonne femme, mais je me suis heurté à toutes les aspérités d'un esprit chagrin, à toutes les fantaisies de l'impuissance, aux puérilités de la niaiserie, à toutes les vanités de la suffisance, à un homme qui était enfin le plus ennuyeux élégie du monde, et qui me traitait comme une petite fille, qui se plaisait à humilier mon amour-propre à tout moment, à m'aplatir sous les coups de son expérience, à me prouver que j'ignorais tout. Il me blessait à chaque instant. Enfin, il a tout fait pour se faire prendre en détestation et me donner le droit de le trahir. Mais j'ai été la dupe de mon cœur et de mon envie de bien faire pendant 3 ou 4 années. Savez-vous le mot infâme qui m'a fait notre folie? N'inventerez-vous jamais d'horribles des calomnies du monde? La duchesse de Maufrigneuse est revenue à son mari, se disait-on. Bah, c'est par dépravation, c'est un triomphe que de ranimer les morts. Elle n'avait plus que cela à faire, a répondu ma meilleure amie, une parente chez celle avec qui j'ai eu le bonheur de vous rencontrer. Ah, madame, n'est-ce pas? S'écria Daniel en faisant un geste d'horreur. « Oh, je lui ai pardonné, mon ami. D'abord, le mot est excessivement spirituel, et peut-être ai-je dit moi-même de plus cruels épigrammes sur de pauvres femmes tout aussi pures que je l'étais. » D'Arthez rebaisa la main de cette sainte femme, qui, après lui avoir servi une mère hachée en morceaux, avoir fait du prince de Cadignan, que vous connaissez, un Othello à triple garde, se mettait elle-même en capilotade et se donnait des torts, afin de se donner, aux yeux du candide écrivain, cette virginité que la plus niaise des femmes essaye d'offrir à tout prix à son amant. Vous comprenez, mon ami, que je suis entré dans le monde avec éclat et pour y faire des éclats. J'ai subi là des luttes nouvelles. Il a fallu conquérir mon indépendance et neutraliser M. de Maufrigneuse. J'ai donc mené, par d'autres raisons, une vie dissipée. Pour m'étourdir, pour oublier la vie réelle par une vie fantastique, j'ai brillé, j'ai donné des fêtes, j'ai fait la princesse et j'ai fait des dettes. Chez moi, je m'oubliais dans le sommeil de la fatigue. Je renaissais, belle, gaie, folle pour le monde. Mais à cette triste lutte de la fantaisie contre la réalité, j'ai mangé ma fortune. La révolte de 1830 est arrivée au moment où je rencontrais, au bout de cette existence des mille et une nuits, l'amour saint et pur que... Allez, je suis franche, je désirais connaître. Avouez-le, n'était-ce pas naturel chez une femme dont le cœur, comprimé par tant de causes et d'accidents, se réveillait à l'âge où la femme se sent trompée, et où je voyais autour de moi tant de femmes heureuses par l'amour? Oh, pourquoi Michel Chrestien fut-il si respectueux? Il y a eu là encore une raillerie pour moi. Que voulez-vous? En tombant, j'ai tout perdu. Je n'ai eu d'illusion sur rien. J'avais tout pressé, hormis un seul fruit, sur lequel je n'ai plus ni goût ni dent. Enfin, je me suis trouvé désenchanté du monde, quand il me fallait quitter le monde. Il y a là quelque chose de providentiel, comme dans les insensibilités qui nous préparent à la mort. Elle fit un geste plein d'onction religieuse. « Tout à l'heure m'a servi, » reprit-elle, « les déserts de la monarchie et ses ruines m'ont aidé à m'ensevelir. Mon fils me console de bien des choses. L'amour maternel nous rend tous les autres sentiments trompés. Et le monde s'étonne de ma retraite, mais j'y ai trouvé la félicité. Oh, si vous saviez combien est heureuse ici la pauvre créature qui est là devant vous. En sacrifiant tout à mon fils, j'oublie le bonheur que j'ignore et que j'ignorerai toujours. Qui pourrait croire que la vie se traduit pour la princesse de Cadignan par une mauvaise nuit de mariage, et toutes les aventures qu'on lui prenne par un défi de petite fille à deux épouvantables passions. Mais personne. Aujourd'hui, j'ai peur de tout. Je repousserai sans doute un sentiment vrai, quelque véritable et pur amour, en souvenir de tant de fausseté et de malheur. De même que les riches, attrapés par des fripons, qui simulent leur malheur, repoussent une vertueuse misère, dégoûtés qu'ils sont de la bienfaisance. Tout cela est horrible, n'est-ce pas, mais croyez-moi, ce que je vous dis est l'histoire de bien des femmes. Ces derniers mots furent prononcés d'un ton de plaisanterie et de légèreté qui rappelait la femme élégante et moqueuse. D'Arthès était abasourdi. À ses yeux, les gens que les tribunaux envoient au bagne, qui pour avoir tué, qui pour avoir volé avec des circonstances aggravantes, qui pour s'être trompé de nom sur un billet, étaient de petits saints comparés aux gens du monde. Cette atroce élégie, forgée dans l'arsenal du mensonge et trempée aux eaux du Styx parisien, avait été dite avec l'accent inimitable du vrai. L'écrivain contempla pendant un moment cette femme adorable plongée dans son fauteuil et dont les deux mains pendaient aux deux bras du fauteuil comme deux gouttes de rosée à la marge d'une fleur. Accablé par cette révélation, abîmé en paraissant avoir ressenti toutes les douleurs de sa vie, allait dire, enfin, un ange de mélancolie. Et jugez, fit-elle en se redressant par un soubresaut et levant une de ses mains et lançant des éclairs par les yeux, où 20 soi-disant chastes années flambaient. Jugez quelle impression ont dû faire sur moi l'amour de votre ami, mais par une atroce raillerie du sort, ou Dieu peut-être, car alors je l'avoue un homme. Mais un homme digne de moi m'eût trouvé faible tant j'avais soif de bonheur. Eh bien, il est mort, et mort en sauvant la vie à qui? À monsieur le Calignan. Étonnez-vous de me trouver rêveuse? Ce fut le dernier coup. Oh, le pauvre d'Arthès n'y tint pas. Il se mit à genoux. Il fourra sa tête dans les mains de la princesse. Et il y pleura, il y versa de ces larmes douces que répandraient les anges, si les anges pleuraient. Comme Daniel avait la tête là, Madame de Cadignan put laisser errer sur ses lèvres un malicieux sourire de triomphe, un sourire qu'auraient les singes en faisant un tour supérieur si les singes riaient. « Oh, je le tiens !» pensa-t-elle. Et elle le tenait bien, en effet. « Mais vous êtes, » dit-il, en relevant sa belle tête et la regardant avec amour. « Vierge et martyre, reprit-elle en souriant de la vulgarité de cette vieille plaisanterie, mais en lui donnant un sens charmant par ce sourire plein d'une gaieté cruelle. Si vous me voyez riant, c'est que je pense à la princesse que connaît le monde, à cette duchesse de Maufrigneuse, à qui l'on donne, et de Marsay, et la femme de Trailles, un coupe-jarret politique, et ce petit sot d'Escrignon, et Rastignac, Rubempré, des ambassadeurs, des ministres, des généraux russes, que sais-je, l'Europe. On a glosé de cet album que j'ai fait faire en croyant que ceux qui m'admiraient étaient mes amis. Ah, c'est épouvantable! Je ne comprends pas comment je laisse un homme à mes pieds. Les mépriser tous, telle devrait être ma religion. » Elle se leva, alla dans l'embrasure de la fenêtre par une démarche pleine de motifs magnifiques. D'Arthez resta sur la chauffeuse où il se remit, n'osant suivre la princesse, mais la regardant. Il entendit se mouchant sans se moucher. « Quelle est la princesse qui se mouche ?» Diane essayait l'impossible pour faire croire à sa sensibilité. D'Arthez crut en son ange en larmes. Il accourut, la prit par la taille, la serra sur son cœur. « Non, laissez-moi, » dit-elle d'une voix faible et en murmurant. « J'ai trop de doutes pour être bonne à quelque chose. Me réconcilier avec la vie est une tâche au-dessus de la force d'un homme. « Diane, je vous aimerai, moi, pour toute votre vie perdue. « Non, ne me parlez pas ainsi, » répondit-elle. « En ce moment, je suis honteuse et tremblante, comme si j'avais commis les plus grands péchés. » Elle était entièrement revenue à l'innocence des petites filles, et se montrait néanmoins auguste, grande, noble, autant qu'une reine. Il est impossible de décrire l'effet de ce manège, si habile, qu'il arrivait à la vérité pure sur une âme neuve et franche comme celle de d'Arthez. Le grand écrivain resta muet d'admiration, passif dans cette embrasure de fenêtre, attendant un mot, tandis que la princesse attendait un baiser. Mais elle était trop sacrée pour lui. Quand elle eut froid, la princesse alla reprendre sa position sur son fauteuil. Elle avait les pieds gelés. « Ce sera bien long, » pensait-elle en regardant Daniel, le front haut et la tête sublime de vertu. « Mais est-ce une femme ?» se demandait ce profond observateur du cœur humain. Mais comment s'y prendre avec elle? Jusqu'à 2 heures du matin, ils passèrent le temps à se dire les bêtises que les femmes de génie, comme la princesse, savent rendre adorables. Diane se prétendit trop détruite, trop vieille, trop passée. D'Arthez lui prouva ce dont elle était convaincue, qu'elle avait la peau la plus délicate, la plus délicieuse au toucher, la plus blanche au regard, la plus parfumée. Elle était jeune et dans sa fleur. Ils disputèrent beauté à beauté, détail à détail, par des « Croyez-vous, vous êtes fou, oh c'est le désir, mais dans 15 jours vous ne verrez telle que je suis. Enfin je vais vers 40 ans, peut-on aimer une vieille femme ?» Si vieille! D'Arthez fut d'une éloquence impétueuse et lycéenne, bardée des épites les plus exagérées. Quand la princesse entendit ce spirituel écrivain disant des sottises de sous-lieutenant, elle l'écouta d'un air absorbé, tout attendri mais riant en elle-même. Quand d'Arthez fut dans la rue, il se demanda s'il n'aurait pas dû être moins respectueux. Il repassa dans sa mémoire ses étranges confidences, qui naturellement ont été fort abrégées ici, Elles auraient voulu tout un livre pour être rendues dans leur abondance mellifluée et avec les façons dont elles furent accompagnées. La perspicacité rétrospective de cet homme, si naturel et si profond, fut mise en défaut par le naturel de ce roman, par sa profondeur, par l'accent de la princesse. « C'est vrai, » se disait-il sans pouvoir dormir, « il y a de ces drames-là dans le monde. Le monde couvre de semblables horreurs sous les fleurs de son élégance, sous la broderie de ses médisances, sous l'esprit de ses récits. N'inventons jamais que le vrai, pauvre Diane. » Michel avait pressenti cette énigme. Il disait que sous cette couche de glace, il y avait des volcans. Et Bianchon, Rastignac ont raison. Quand un homme peut confondre la grandeur de l'idéal et les jouissances du désir, en aimant une femme à jolie manière, pleine d'esprit, de délicatesse, mais ce doit être un bonheur sans nom. Et il sondait en lui-même son amour, et il le trouvait infini. Le lendemain, sur les 2 heures, Madame d'Espard, qui depuis plus d'un mois ne voyait plus la princesse et n'avait pas reçu d'elle un seul traître mot, vint amenée par une excessive curiosité. Rien de plus plaisant que la conversation de ces deux fines couleuvres pendant la première demi-heure. Diane d'Uxelles se gardait, comme de porter une robe jaune, de parler de d'Arthez. La marquise tournait autour de cette question comme un bédouin autour d'une riche caravane. Diane s'amusait, la marquise enrageait. Diane attendait. Elle voulait utiliser son amie et en faire un chien de chasse. De ces deux femmes si célèbres dans le monde actuel, l'une était plus forte que l'autre. La princesse dominait de toute la tête la marquise, et la marquise reconnaissait intérieurement cette supériorité. Là, peut-être, était le secret de cette amitié. La plus faible se tenait tapie dans son faux attachement pour épier l'heure, si longtemps attendue par tous les faibles, de sauter à la gorge des forts et leur imprimer la marque d'une joyeuse morsure. Diane y voyait clair. Le monde entier était la dupe des câlineries des deux amis. À l'instant où la princesse aperçut une interrogation sur l'élève de son amie, elle lui dit « Eh bien, ma chère, oh, je vous dois un bonheur complet, immense, infini, céleste. Que voulez-vous dire ? Vous souvenez-vous de ce que nous ruminions il y a 3 mois dans ce petit jardin, sur le banc, au soleil, sous le jasmin ? Ah, il n'y a que les gens de génie qui sachent aimer. Là, j'appliquerai volontiers à mon grand Daniel d'Arthez le mot du duc d'Alba, Catherine de Médicis. La tête d'un seul saumon vaut celle de toutes les grenouilles. « Ah, je ne m'étonne plus de vous voir, » dit Madame d'Espard. « Oh, promettez-moi, si vous le voyez, de ne pas lui dire un mot de moi, mon ange, » dit la princesse en prenant la main de la marquise. « Je suis heureuse, mais heureuse au-delà de toute expression, et vous savez combien dans le monde un mot, une plaisanterie vont loin. Une parole tue, tant on sait mettre de vérinin dans une parole. Et si vous aviez combien depuis 8 jours j'ai désiré pour vous une semblable passion. Enfin, il est doux, c'est un beau triomphe pour nous autres femmes que d'achever notre vie de femme, de s'endormir dans un amour ardent, pur, dévoué, complet, entier, surtout quand on l'a cherché pendant si longtemps. Mais pourquoi me demandez-vous d'être fidèle à ma meilleure amie, dit Madame d'Espard. Me croyez donc capable de vous jouer un mauvais tour, un vilain tour? Quand une femme possède un tel trésor, la crainte de le perdre est un sentiment si naturel qu'elle inspire les idées de la peur. Je suis absurde, pardonnez-moi, ma chère. Quelques moments après, la marquise sortit. Et en la voyant partir, la princesse se dit « Comme elle va m'arranger, puisse-t-elle tout dire sur moi ? Mais pour lui épargner la peine d'arracher Daniel d'ici, je vais le lui envoyer. » À 3 heures, quelques instants après, d'Arthez vint. Au milieu d'un discours intéressant, la princesse lui coupa net la parole et lui posa sa belle main sur le bras. « Pardon, mon ami, lui dit-elle en l'interrompant, mais j'oublierai cette chose qui semble une niaiserie, et qui cependant est de la dernière importance. Vous n'avez pas mis le pied chez Madame d'Espard depuis le jour mille fois heureux où je vous ai rencontré. Allez-y, oh non pas pour vous, ni par politesse, mais pour moi. Peut-être m'en avez-vous fait une ennemie. Si elle a par hasard appris depuis que son dîner, vous n'êtes pour ainsi dire pas sorti de chez moi. D'ailleurs, mon ami, je n'aimerais pas vous voir abandonnant vos relations et le monde, ni vos occupations et vos ouvrages. Je serais encore étrangement calomnié. Que ne dirait-on pas ? Je vous tiens en laisse, je vous absorbe, je crains les comparaisons, je veux encore faire parler de moi. Oh, je m'y prends bien pour conserver ma conquête, en sachant que c'est la dernière. Qui pourrait deviner que vous êtes mon unique ami ? Oh, si vous m'aimez autant que vous dites m'aimer, vous ferez croire au monde que nous sommes purement et simplement frères et sœurs. Continuez ! D'Arthez fut pour toujours discipliné par l'ineffable douceur avec laquelle cette gracieuse femme arrangeait sa robe pour tomber en toute élégance. Il y avait je ne sais quoi de fin, de délicat dans ce discours qui le toucha aux larmes. La princesse sortait de toutes les conditions ignobles et bourgeoises des femmes qui se disputent et se chicanent pièce à pièce sur des divans. Elle déployait une grandeur inouïe. Elle n'avait pas besoin de le dire. Cette union était entendue entre eux noblement. Ce n'était ni hier, ni demain, ni aujourd'hui. Ce serait quand ils le voudraient, l'un et l'autre, sans les interminables bantelets de ce que les femmes vulgaires nomment un sacrifice. Sans doute, elles savent tout ce qu'elles doivent y perdre, mais tandis que cette fête est un triomphe pour les femmes sûres d'y gagner. Dans cette phrase, tout était vague comme une promesse, doux comme une espérance et néanmoins certain comme un droit. Avouons-le, ces sortes de grandeurs n'appartiennent qu'à ces illustres et sublimes trompeuses. Elles restent royales encore là, où les autres femmes deviennent sujettes. D'Arthez put alors mesurer la distance qui existe entre ces femmes et les autres. La princesse se montrait toujours digne et belle. Le secret de cette noblesse est peut-être dans l'art avec lequel les grandes dames savent se dépouiller de leur voile. Elles arrivent à être dans cette situation comme des statues antiques. Si elles gardaient un chiffon, elles seraient impudiques. La bourgeoise essaye toujours de s'envelopper. Enharnachée de tendresse, maintenue par les plus solides vertus, d'Arthez obéit et alla chez Madame d'Espard, qui déploya pour lui ses plus charmantes coquetteries. La marquise se garda bien de dire à Arthez un mot de la princesse. Elle le pria seulement à dîner pour un prochain jour. D'Arthez vit ce jour-là nombreuses compagnies. La marquise avait invité Rastignac, Blondet, le marquis d'Ajuda Pinto, Maxime de Trailles, le marquis d'Esgrignon, les deux Vandenesse, Du Tilleul, un des plus riches banquiers de Paris, le baron de Nucingen, Nathan, Lady Dudley, deux des plus perfides attachés d'ambassade, et le chevalier d'Espard, l'un des plus profonds personnages de ce salon, la moitié de la politique de sa belle-sœur. Et ce fut en riant que Maxime de Trailles dit à d'Arthès: « Vous voyez beaucoup la princesse de Cadignan ?» D'Arthès fit en réponse à cette question une sèche inclination de tête. Maxime de Trailles était un bravo d'un ordre supérieur, sans foi ni loi, capable de tout, ruinant les femmes qui s'attachaient à lui, leur faisant mettre leurs diamants en gage, mais couvrant cette conduite d'un vernis brillant, de manière charmante et d'un esprit satanique. Il inspirait à tout le monde une crainte et un mépris égal. Mais comme personne n'était assez hardi pour lui témoigner autre chose que les sentiments les plus courtois, il ne pouvait s'apercevoir de rien, ou il se prêtait à la dissimulation générale. Il devait au comte de Marseille le dernier degré d'élévation auquel il pouvait arriver. De Marseille, qui connaissait Maxime de longue main, l'avait jugé capable de remplir certaines fonctions secrètes et diplomatiques qui lui donnaient et desquelles il s'acquittait à merveille. D'Arthez était depuis un an assez mêlé aux affaires politiques pour connaître à fond le personnage, et lui seul, peut-être, avait un caractère assez élevé pour exprimer tout haut ce que le monde pensait tout bas. « Cette sortie de Birelle que vous négligez, je vous négligez la chambrée, » dit le baron de Nucingen. « Oh, la princesse est une des femmes les plus dangereuses chez lesquelles un homme puisse mettre le pied, » s'écria doucement le marquis d'Esgrignon. « Je lui dois l'infamie de mon mariage. »« Dangereuse ?» dit Madame d'Espard. « Oh, ne parlez pas ainsi de ma meilleure amie. Je n'ai jamais rien vu ni su de la princesse qui ne me paraisse tenir des sentiments les plus élevés. »« Mais laissez donc dire le marquis !» s'écria Rastignac. « Quand un homme a été désarçonné par un joli cheval, il lui trouve des vices et il le vend. » Piqué par ce mot, le marquis d'Esgrignon regarda Daniel d'Arthez et lui dit « Monsieur, n'en est pas, je l'espère, avec la princesse, un point qui nous empêche de parler d'elle. » D'Arthez garda le silence. D'Esgrignon, qui ne manquait pas d'esprit, fit en réponse à Rastignac un portrait apologétique de la princesse qui mit la table en belle humeur. Comme cette raillerie était excessivement obscure pour d'Arthez, il se pencha vers Madame de Montcornet, sa voisine, et lui demanda le sens de ses plaisanteries. « Mais acceptez-vous, en jugez par la bonne opinion que vous avez de la princesse, tous les convives ont été, dit-on, dans ses bonnes grâces. »« Oh, je puis vous assurer qu'il n'y a rien que de faux dans cette opinion !» répondit Daniel. « Ah, cependant, voici M. d'Esgrignon, un gentilhomme du Perche, qui est complètement ruiné pour elle, il y a 12 ans, et qui, pour elle, a failli monter sur l'échafaud. »«
C'est l'affaire, » dit d'Arthez. « Madame de Cadignan est allée sauver M. d'Esprit dans la cour d'Assise, et voilà comment il la récompense aujourd'hui. »
Madame de Montcornet regarda d'Arthez avec un étonnement et une curiosité presque stupide, puis elle reporta ses yeux sur Madame d'Espard en le lui montrant comme pour dire « Mais il est ensorcelé !» Pendant cette courte conversation, Madame de Cadignan était protégée par Madame d'Espard, dont la protection ressemblait à celle des paratonnerres qui attirent la foudre. Quand d'Arthez revint à la conversation générale, il entendit Maxime de Trailles lançant ce mot. « Cher Diane, la dépravation n'est pas un effet, mais une cause.
Peut-être doit-elle à cette cause son naturel exquis. Elle ne cherche pas, elle n'invente rien. Elle vous offre les recherches les plus raffinées comme une inspiration de l'amour le plus naïf, et vous êtes impossible de ne pas la croire. » Cette phrase, qui semblait avoir été préparée pour un homme de la portée de Danglars, d'Arthez, était si forte que ce fut comme une conclusion. Chacun laissa la princesse, elle parut assommée. D'Arthez regarda de Trailles et d'Esgrignon d'un air railleur. « Le plus grand tort de cette femme est d'aller sur les brisés des hommes, dit-il. Elle dissipe comme eux des biens parafernaux. Elle envoie ses amants chez les usuriers. Elle dévore des dots, elle ruine des orphelins. Elle fond de vieux châteaux et inspire, comme elle peut être aussi, des crimes. » Jamais aucun des deux personnages auxquels répondait d'Arthez n'avait entendu rien de si fort. Sur ce « mais », la table entière fut frappée. Chacun resta là, fourchette en l'air, les yeux fixés alternativement sur le courageux écrivain et sur les assassins de la princesse, en attendant la conclusion dans un horrible silence. « Mais, dit d'Arthez, avec une moqueuse légèreté, Madame la princesse de Cadignan a sur les hommes un avantage. Quand on s'est mis en danger pour elle, elle vous sauve et ne dit de mal à de personne. Et pourquoi, dans le nombre, ne se trouvait-il pas une femme qui s'amusa des hommes comme les hommes s'amusent des femmes? Pourquoi le beau sexe ne prendrait-il pas de temps en temps une revanche? Le génie est plus fort que l'esprit, dit Blondet à Nathan. Cette avalanche d'épigrammes fut en effet comme le feu d'une batterie de canon opposée à une fusillade. On s'empressa de changer de conversation. Ni le comte de Trailles, ni le marquis d'Esgrignon ne parurent disposés à quereller d'Arthez. Quand on servit le café, Blondet et Nathan vinrent trouver l'écrivain avec un empressement que personne n'osait imiter, tant il était difficile de concilier l'admiration inspirée par sa conduite et la peur de se faire deux puissants ennemis. « Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous savons combien votre caractère égale en grandeur votre talent, lui dit Blondet. Vous vous êtes conduit là, non plus comme un homme, mais comme un dieu. Ne s'être laissé emporter ni par son cœur, ni par son imagination. Ne pas avoir pris la défense d'une femme aimée, faute qu'on attendait de vous, et qui fait triompher ce monde dévoré de jalousie contre les illustrations littéraires. Permettez-moi de le dire, c'est le sublime de la politique privée. Ah, vous êtes un homme d'État, dit Nathan. Il est aussi habile que difficile de venger une femme sans la défendre. Mais la princesse est une des héroïnes du parti légitimiste. N'est-ce pas un devoir pour tout homme de cœur de la protéger quand même? Répondit froidement d'Arthez. Ce qu'elle a fait pour la cause de ses maîtres excuserait la plus folle vie. Il joue serré, dit Nathan à Blondet. Absolument comme si la princesse en valait la peine, répondit Rastignac qui s'était joint à eux. D'Arthez alla chez la princesse qui l'attendait en proie aux plus vives anxiétés. Le résultat de cette expérience que Diane avait favorisée pouvait lui être fatal. Pour la première fois de sa vie, cette femme souffrait dans son cœur et suait dans sa robe. Elle ne savait quel parti prendre au cas où d'Arthez croirait le monde qui disait vrai, au lieu de la croire elle qui mentait. Car jamais un caractère si beau, un homme si complet, une âme si pure, une conscience si ingénue, ne s'était offert à sa vue, à sa portée.
Si elle avait ourdi de si cruels mensonges, elle y avait été poussée par le désir de connaître le véritable amour. Cet amour, elle le sentait poindre dans son cœur, elle aimait d'Arthez. Elle était condamnée à le tromper, car elle voulait rester pour lui l'actrice sublime qui avait joué la comédie à ses yeux. Quand elle entendit le pas de Daniel dans la salle à manger, elle éprouva une commotion, un tressaillement qui l'agita jusque dans les principes de sa vie. Ce mouvement qu'elle n'avait jamais eu pendant l'existence la plus aventureuse pour une femme de son rang, lui apprit alors qu'elle avait joué son bonheur. Ses yeux, qui regardaient dans l'espace, embrassèrent d'Arthez tout entier. Elle vit à travers sa chair, elle lut dans son âme. Le soupçon n'avait même donc pas effleuré de son aile de chauve-souris. Le terrible mouvement de cette peur eut alors sa réaction. La joie faillit l'étouffer. L'heureuse Diane, car il n'est pas de créature qui n'ait plus de force pour supporter le chagrin que pour résister à l'extrême félicité. « Daniel, on m'a calomnié, tu m'as vengé !» s'écria-t-elle en se levant et en lui ouvrant les bras. Dans le profond étonnement que lui causa ce mot, dont les racines étaient invisibles pour lui, Daniel se laissa prendre la tête par deux belles mains et la princesse le baisa saintement au front. « Comment avez-vous su ?»
Ô niais illustre, ne vois-tu pas que je t'aime follement ?
Depuis ce jour, il n'a plus été question de la princesse de Cadignan ni de d'Arthez. La princesse a hérité de sa mère quelques fortunes. Elle passe tous les étés à Genève, dans une villa, avec le grand écrivain, et revient pour quelques mois d'hiver à Paris. D'Arthez ne se montre qu'à la chambre, et ses publications sont devenues excessivement rares. Est-ce un dénouement? Oui, pour les gens d'esprit. Non, pour ceux qui veulent tout savoir. Au jardin, juin 1839.